Bonsoir, comment allez-vous ? À la question « Que regardez-vous en premier chez un homme ?», Catherine Lara aurait répondu « Sa femme », ce qui prouve qu'elle a de l'esprit. Mais regarde-t-on vraiment quelque chose chez un homme ? Ou bien se laisse-t-on porter ou emporter par une impression de douceur, de chaleur, d'énergie, de drôlerie, de loyauté, etc. ? Ça se passe donc au carrefour de la tête et du cœur, au rond-point des émotions, disons. N'empêche que nous n'irions, ne serait-ce que boire un café, avec un homme qui porte des chaussettes dans ses sandales, nous sommes d'accord. Et que Monsieur Merle a le mec bien jaune, et Monsieur Lyon une belle crinière de chez Rolex. Pourtant, les non-voyants tombent amoureux. Je crois que, en fait, ils le savent tout de suite si le gars a des chaussettes dans ses sandales. Comment ? Je ne sais pas. Peut-être au son de sa voix.
Bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 17 ans et j'aimerais bien savoir si les femelles dans la nature choisissent toujours les mâles les plus forts et les plus beaux. Merci.
Bonsoir Rémi, c'est Thierry Laudet que tu auras peut-être comme professeur, parce que Thierry Laudet, vous êtes professeur, chercheur en écologie évolutive. C'est drôlement important ce que demande Rémi. Est-ce que les femelles dans la nature choisissent toujours les mâles les plus forts et les plus beaux ?
Alors on a longtemps cru que les femelles choisissaient des mâles justement pour leur qualité, et notamment leur qualité génétique, mais aussi évidemment tous ces caractères apparents. Mais quand on a analysé les choix sexuels, on s'est rendu compte soit que les femelles se trompaient souvent, ce qui était possible à ma foi, ou soit qu'elles faisaient autre chose. En plus, on a vraiment eu l'impression qu'elles ne comprenaient pas vraiment sur quelle base elles choisissaient vraiment les mâles. Car si un mâle était le plus beau, il était le plus fort, eh bien toutes les femelles auraient dû choisir le même. Oui. Et là, ça présente un grave défaut avec la sexualité, parce que si on choisit évidemment toujours le même individu, on va présenter des risques de consanguinité. Tous les descendants vont petit à petit être tous beaux et tous forts. Et donc pourquoi finalement choisir ? Au bout d'un moment, on perd même l'intérêt du choix. Donc il a fallu trouver sur quel autre critère les choses se passaient. Et c'est autre chose qui intervient. En fait, les femelles et les mâles vont préférer des partenaires qui sont différents d'eux. Ça a plusieurs avantages. En refusant de copuler entre apparentés, on va éviter la consanguinité et donc tout le risque de problèmes consanguins à terme, de détérioration de notre patrimoine génétique ou de nos caractères. Et puis ça offre un gros avantage, c'est qu'on augmente sa diversité génétique. Et en augmentant sa diversité génétique, on va augmenter la force immunitaire, nos compétences immunitaires. Ce qui séduit chez l'autre, c'est surtout le fait d'être différent de nous, différent de notre propre système immunitaire. Si les deux systèmes immunitaires sont encore compatibles, mais un peu exotiques, il faut ce petit exotisme-là, eh bien, on va être séduit. Et ça, c'est les phéromones qui vont au départ nous intéresser, qui vont nous faire comprendre, oh, là, le système immunitaire, il est différent, on va pouvoir commencer à comprendre ça. Et chez l'homme, ça passe en général par ce que les scientifiques appellent l'observation de l'organe voméronasal. C'est un triste mot pour dire que ça passe par le baiser sur la bouche.
Voméronasal ?
Voilà, c'est situé en haut. Du palais. Parce qu'en passant par la bouche, on passe par la salive, mais on touche aussi les organes qui vont être les plus précis, qui vont nous faire témoigner le mieux de notre système immunitaire. Et si on a un système immunitaire différent, évidemment, on va pouvoir être intéressant. Alors c'est un avantage, ça veut dire que tout le monde va forcément être séduit par quelqu'un d'autre. On n'est pas tous à la recherche de George Clooney ou de Marilyn Monroe. On est au contraire à la recherche d'un partenaire qui va nous convenir. Et donc il y a des milliers de partenaires qui sont susceptibles de nous convenir. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'il y a des milliers de partenaires qui sont susceptibles de nous convenir. Et donc, on peut aussi changer en cours de route après avoir choisi un partenaire.
Bah, changer, c'est pas mal, génétiquement parlant.
Génétiquement, c'est très bien. Biologiquement, c'est très bien. Les animaux le font très régulièrement. Chez l'homme, c'est pas toujours si bien vu que ça.
Vous trouverez les ouvrages de Thierry Laudet sur le site des Petits Bateaux. Ce soir, nous saurons qui était le premier roi, puisque son père n'était pas roi. Comment une fleur coupée arrive à se nourrir de l'eau du vase et pourquoi la langue française est si compliquée? Ces questions ont été posées par des enfants, en principe, au 01 56 40 43 57.
Je m'appelle Odile, j'ai 89 ans et je ne voudrais pas mourir sans savoir pourquoi le beurre ou la matière grasse explose autant quand on y met une viande ou du foie. Je remercie. Je suis un peu jalouse de tous ces jeunes. Bonsoir.
Bonsoir Odile. Vous voyez, il n'y a pas de quoi être jalouse puisque nous proposons votre question, et en plus pas à n'importe qui, à Hervé Tisse.
J'essaie toujours de digérer les questions et même de les reformuler avant de répondre. Parce que le beurre, pourquoi est-ce qu'il exploserait quand on y met viande de foie ? D'abord, je fais l'hypothèse qu'elle va mettre son beurre dans sa poêle.
Oui.
Or, quand on met du beurre dans une poêle, on voit des bulles et on voit déjà des petites explosions, en quelque sorte. Parce que le beurre contient, on va dire, entre 10 et 20% d'eau. Ah. Et quand le beurre fond, il libère l'eau. L'eau est plus dense que la matière grasse du beurre qui a fait huile. Et donc, l'eau tombe au contact de la poêle ou de la casserole. Mais comme la poêle et la casserole sont chauffées très fort, bah, l'eau s'évapore, mais il y a une couche au-dessus, et donc ça fait des projections de gras. C'est comme ça que viennent les projections de gras.
Ah, c'est ça l'histoire. Ouais. C'est comme si on jetait un petit peu d'eau dans la poêle chaude.
Absolument, voilà. Et cette eau vient du beurre. Alors, avec l'huile, ça n'existe pas. Mais une fois que l'eau s'est évaporée, à ce moment-là, l'huile peut se mettre à chauffer très fort, plus que 100 degrés. Elle peut monter à 180. Et d'ailleurs, les chefs, eux, regardent ça quand ça fume. Et ça fume à 200, 250. Ça s'appelle le point de fumée. C'est connu. Alors maintenant, quand on y met de la viande ou du foie, mais pas seulement en vrai, quand on regarde bien. Je prends la viande pour simplifier, mais le foie, c'est de la viande, en quelque sorte. La viande, c'est en gros fait de 60% de protéines et de 40% d'eau. La viande, oui, c'est ça. Et quand on y met la viande dans la matière grasse chauffée très fort, on y met de l'eau, en quelque sorte. Et cette eau va se mettre à s'évaporer, ça va faire des bulles, ça va faire des projections, ça va faire ce qu'elle appelle des explosions, en quelque sorte. C'est vrai que quand la vapeur se forme très très fort, il y a un bruit. Et ce bruit survient parce que, en quelque sorte, on a dépassé la vitesse du son dans un milieu donné. Comme un avion qui passe le mur du son, mais d'une façon très très localisée dans la casserole.
Ça me donne pas la solution d'une question que moi que je me pose, c'est comment saisir la viande sans cochonner la cuisinière.
Ah oui, mais ça, vous aurez du mal, en prenant des casseroles à bord assez haut.
Charmant rire d'Hervé Tisse, qui est physico-chimiste à l'INA, membre de l'Académie d'agriculture. Son histoire de cuisine est éditée chez Belin. Merci Odile de nous avoir posé cette question. Bon appétit.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutraient, les gens trompent, mélisent du vent furibond, qui rebrousse les bois, retrousse les toits, détrousse les robes. Des gens foutres et des gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci, et c'est justice, comme de Colin tampon. Si par hasard, sous le pont des arts, tu croises le vent fripon, hey, prudence, prends garde à ton jupon. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolante, nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, shut up. chapeau.
C'est drôle, hein, en entendant Catherine Ringer reprendre une chanson de Georges Brassens, on s'aperçoit à quel point le rythme colore le texte.
Les petits bateaux sur France Inter.
Ah, à propos de texte, voici justement une question qui va bien.
Bonjour, je m'appelle Marguerite, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi la langue française est si compliquée. Merci.
Pourquoi la langue française est si compliquée? Vous en savez quelque chose, Muriel Gilbert, c'est votre métier. Vous êtes correctrice et vous avez écrit au bonheur des fautes. Peut-on lui répondre à Marguerite?
D'abord, je vais lui dire que si la langue française n'était pas compliquée, j'aurais pas de travail. Donc je suis assez contente qu'elle soit un petit peu compliquée. Mais c'est vrai qu'elle l'est. Alors, pour les gens comme moi, et puis pour toi aussi sans doute, Marguerite, qui sont nés en France, la langue française n'est pas plus compliquée qu'une autre à parler. On est bien d'accord, on se débrouille. Hein. Je ne pense pas qu'elle soit plus difficile. Pour les étrangers, par contre, elle a des sons très difficiles à reproduire, comme les sons « en »,« on », »,« un ». Les étrangers ont beaucoup de mal à les produire. Et puis, on a notre « r » qui est à peu près impossible à faire sans un gros effort pour les gens qui roulent les « r » comme les Espagnols ou les Italiens, ou bien ceux qui les, je dirais, qui les « roulent », comme les Anglo-Saxons. Ils ont beaucoup de mal avec notre « r ». Mais les autres langues, en échange, sont compliquées à prononcer pour nous. Le « th » des Anglo-Saxons, « the », « th », c'est difficile aussi. Donc, toutes les langues peuvent être compliquées à prononcer, déjà, quand on n'est pas né dans cette langue-là. Mais alors, si on reste maintenant aux personnes dont le français est la langue maternelle, eh bien, la principale difficulté, c'est l'écriture, l'orthographe, quoi, la grammaire, tout ça. C'est vrai. Parce que le français, à la différence de l'espagnol, par exemple, il ne s'écrit pas du tout, mais pas du tout, comme il se prononce. Il y a toutes les consonnes doubles, par exemple, comme dans comme, ah. Deux N, E, hein, ou comme dans consonne aussi, deux N, E. On ne l'entend pas, les deux N. Donc, il faut le connaître par cœur, ça n'a pas de logique. Les fins des verbes conjugués, quand j'ai dit s'entendre, je dis s'entendre, il y a un ENT à la fin de s'entendre là.
Qu'on n'entend pas.
Qu'on n'entend pas du tout. Et puis, toutes ces lettres à la fin des mots, comme les S des pluriels, ou même le T qu'on n'entend pas à la fin du mot, mot. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient en grande partie d'une époque où s'est fixée l'orthographe du français. Parce qu'il fut un temps, Marguerite, qui va peut-être te faire rêver, à cette époque-là, chacun écrivait le français comme il voulait. Il n'y avait pas de règles. Alors l'ennui, c'est que parfois c'était difficile de comprendre les lettres des gens, par exemple. Si moi j'écris lettre L-E-D-T-R-E et que toi tu écris lettre L-A-I-T-R ou bien pourquoi pas L-E-T-R, j'aurais peut-être du mal à te comprendre. Et c'est pour ça qu'un jour, on a décidé qu'il valait mieux qu'on écrive tous de la même manière. C'est au XVIIe siècle, Richelieu, c'était à l'époque du roi Louis XIII, il a créé l'Académie française et puis l'a chargé de donner au pays une grammaire et un dictionnaire. Et puis finalement, c'est au XIXe siècle, en 1843 même, que le dernier roi de France, qui s'appelait Louis-Philippe, il a décidé que l'administration devrait désormais respecter l'orthographe de l'Académie. C'est comme ça qu'il a créé la faute d'orthographe, on peut dire. Hein.
Eh oui.
Et puis la dictée par Ricochet, et peut-être même le bonnet d'âne, qui ne s'en peut plus guère, mais
pauvre âne,
qui a eu un grand succès à une époque. Et donc c'est à ce moment-là, en tout cas, que l'orthographe qu'on connaît aujourd'hui s'est fixée véritablement, même si elle bouge un tout petit peu encore. Et puis, contrairement aux choix qu'ont fait d'autres pays comme l'Espagne, dont on parlait tout à l'heure, ou bien l'Italie, chez nous, c'était les grammairiens qui étaient partisans de ce qu'on appelle l'étymologie, l'origine des mots, qui est souvent latine en français. Ils ont gagné par rapport à leurs adversaires, parce qu'il y a eu une bagarre à ce moment-là sur la manière de fixer l'orthographe. Ils avaient des adversaires qui disaient « mais non, il faut écrire les mots comme ils se prononcent ». Et en fait, c'est les partisans de l'étymologie qui ont gagné. C'est pourquoi l'orthographe du français est tellement plus alambiquée que celle de l'espagnol ou de l'italien. Mais alors, tu peux te consoler, Marguerite, parce que si tu trouves l'écriture du français très compliquée, pense aux petits chinois qui ont des milliers d'idéogrammes à apprendre avant de pouvoir commencer à écrire. Et puis, l'anglais d'ailleurs, s'il est moins compliqué que le français en matière de grammaire et de temps, il ne s'écrit pas du tout comme il se prononce lui non plus. Par exemple, « flower », qui veut dire « fleur », ça peut aussi vouloir dire « farine », mais ça s'écrit autrement. F-L-O-U-R ou bien F-L-O-W-E-R. Voilà. Donc on n'est pas les seuls à avoir des problèmes avec notre langue et notre orthographe.
Donc le livre de Muriel Gilbert, Au bonheur des fautes, est édité à la librairie Vuibert. Et puis vous pouvez aller faire un tour sur son site murielgilbert.com. Demain, nous serons le 1er mai, vous n'irez probablement pas travailler. En revanche, vous offrirez ou vous recevrez un brin de muguet.
Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 10 ans et demi et je voudrais savoir comment font les fleurs pour boire dans un vase. Merci de me répondre.
Comment les plantes boivent dans un vase? Catherine Laine, enseignante-chercheure à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Vous avez écrit « Dans la peau d'une plante » chez Belin. 70 questions impertinentes sur la vie cachée des plantes. C'est vrai qu'on se le demande, mais on m'a dit qu'il fallait couper les tiges et les couper sous l'eau.
Oui,
c'est
alors
vrai
d'abord, répondre à votre première question, comment elles boivent alors qu'elles n'ont plus de racines?
Ben
puisqu'on
oui.
a coupé les tiges, on a mis les tiges dans l'eau. Donc on sait que l'eau rentre par les racines normalement. Donc là, comment ça rentre? Eh bien, l'eau va quand même monter dans la tige à partir de la base, parce que cette tige, elle porte des feuilles, elle a aussi des fleurs, et les feuilles et les pétales des fleurs évaporent de l'eau, perdent de l'eau,
elles transpirent.
Voilà. Donc comme elles transpirent, elles vont aspirer l'eau de la base de la tige vers le haut. Donc ça, d'accord. C'est la première chose. Ensuite, effectivement, on dit qu'il faut couper les tiges sous l'eau.
Oui.
Alors pourquoi? Ben simplement parce que justement, pour permettre à l'eau de monter jusqu'aux feuilles, il faut pas qu'il y ait de bulles d'air à l'intérieur des vaisseaux qui transportent l'eau. S'il y a une bulle d'air, ça s'appelle une embolie. C'est comme chez nous, une bulle d'air dans un vaisseau, ça peut être fatal. Et la bulle d'air va casser la colonne d'eau et empêcher l'eau de monter.
D'accord.
Donc on coupe sous l'eau pour éviter à l'air de rentrer par la tige coupée en fait.
Le site de Catherine Laine, vous le trouverez sur le site des Petits Bateaux et son livre Dans la peau d'une plante est édité chez Belin.
Of Catherine the Great, let's talk of love and the power of the state. She was a crazy, spontaneous girl. Everyone paid homage to her. Catherine the Great, there were few brainier. Just ask the king of Lithuania. She could dictate what went on anywhere. She had great hair and a powerful gait, Catherine the Great. Catherine the Great. She could converse with the best. She knew Voltaire, Diderot, and the rest. She might have inside she was a sensitive girl, Catherine the Great. With her military might, she could defeat anyone that she liked. And she looked so bloody good on a horse that they couldn't wait for her to invade. Catherine the Great.
Imaginez un film dans votre tête en entendant cette chanson The Divine Comedy. Eh ben oui, comme tout le monde. Vous écoutez Les Petits Bateaux sur France Inter, c'est vraiment la bonne idée. Vous pouvez aussi poser une question en appelant notre répondeur au 01 56 40 43 57.
Comment
Bonjour, je m'appelle Théotime. J'ai 5 ans et je voudrais savoir quel était le premier roi, car ça ne pouvait pas être le fils du roi.
C'est bien vu, c'est bien lu. Je ne sais pas d'où vient l'idée, si c'est de toi ou si on te l'a soufflé. En tout cas, Clotilde, elle est bonne, Frédéric Ancel.
Ah bah non seulement elle est bonne, mais moi je dirais que Clotilde, en tout cas, c'est une reine. Alors de sa classe, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau des questions, ça c'est vraiment génial. En effet, il y a eu forcément un premier roi à un certain moment. Alors d'abord, il faut bien, Clotilde, comprendre qu'il n'y a jamais eu de roi universel. Il y a un roi pour un royaume, pour un territoire, pour un pays. Ce qui signifie que sur l'ensemble de la planète, il y a eu des centaines et des milliers de rois, certains étant d'ailleurs rois concomitamment, c'est-à-dire en même temps, au même moment. Et ils se connaissaient évidemment pas nécessairement. Il y a en général une élection, ça paraît stupéfiant, mais il y a une élection au début d'une dynastie. Il faut bien comprendre que, par exemple, la très longue dynastie des Capets ou des Capétiens en France commence en 987 avec Hugues Capet. Hein. Il s'appelle Capet d'ailleurs parce qu'il avait une petite capuche. Hein. Voilà,
c'est vrai?
Oui, absolument. Et lui, il a été désigné. Il a été, autrement dit, élu par un collège qui comptait que quelques personnes, d'ailleurs, mais des personnalités importantes. Et le précédent roi donc de la dynastie précédente venait de mourir, une partie de chasse d'ailleurs. Et il n'avait pas laissé de descendants mâles. Autrement dit, il fallait bien désigner quelqu'un d'autre, donc d'une autre famille. Ce Hugues Capet, eh bien, ça a été le premier d'une très très longue dynastie. Et tu vois, Clotilde, lui, il n'avait rien d'un fils de roi, simplement il a été désigné. Prenons un autre exemple, toujours en France, Clovis. Alors, il faut remonter encore plus loin, on est au 5e siècle. Clovis est un roi franc. Et Clovis se fait porter sur le pavois à l'ancienne par ses soldats. Et au terme de quelques batailles victorieuses, il est fait roi. Et là, il y a toute une mythologie, des légendes, qui ont été créées au Moyen-Âge pour légitimer ce roi. Parce qu'il fallait quand même qu'il soit fils de roi lui-même. Alors, on a inventé son père, roi, qui s'appelait Mérové. D'où les Mérovingiens. Très franchement, Clotilde, il y a peu de photos hein, de Mérové, et il n'y a pas beaucoup d'illustrations et encore moins d'enregistrements. Clovis, on sait qu'il a existé, on connaît ses faits d'armes, globalement on connaît ses soldats et sa femme, mais Mérové, on pense qu'il n'a pas existé, et là on plonge dans des mythes fondateurs d'une dynastie pour la rendre encore plus prestigieuse.
Donc en fait, on est roi au mérite. Au départ.
Alors, au départ, souvent, on est roi au mérite, en tout cas au mérite ou à la force de son épée. Alors, on peut appeler ça du mérite, hein, l'emporter sur le plan militaire. C'est un mérite, hein, avoir gagné une bataille. Par exemple, Clovis, s'il n'avait pas gagné contre les Burgondes, vraisemblablement, n'aurait-il pas été désigné roi par ses proches et ses soldats. Donc oui, au départ, il y a une forme de mérite.
Les aristos qui sont si nobles sont au départ nobles au mérite.
Aussi, oui, au départ.
Quand on a été nommé.
Oui, absolument. Alors, au mérite ou à la richesse. C'est-à-dire que souvent, les désignés, c'est encore pire si vous voulez, on peut considérer que c'est encore pire. Et je vous rejoins parce que souvent, lorsqu'ils sont riches, c'est parce qu'en amont, ils ont été considérés comme méritants et par conséquent comme pouvant posséder des terres, puisqu'à l'époque, la richesse était essentiellement des terres. Dernier point quand même, pour répondre à Clotilde, comment s'appelait la femme de Clovis? Eh bien, c'était la reine Clotilde.
Ah, trop joli. Merci Frédéric Ancel, que vous connaissez bien, auditeur de France Inter. Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et maître de conférences à Sciences Po, où Clotilde, tu iras peut-être plus tard. Et voilà, une musique qui sonne la fin des petits bateaux sans la sonner vraiment, car vous pouvez nous retrouver sur le site des petits bateaux, podcaster l'émission, la réécouter quand bon vous semble. Nous ne serons pas là la semaine prochaine, mais la suivante. Prise de son, Raphaël Rousseau, réalisation Marjorie Devoucoux, programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. Ce soir, nous avons rendez-vous à 22h dans État d'esprit. Ernst Zürcher, qui est un ingénieur forestier, nous dira à quel point les arbres nous ressemblent, à moins que ce ne soit l'inverse. Pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulu, mon petit loup.